L'Express du Grand Paris, pour aller plus vite, pour aller plus loin. Une émission présentée par Christophe Bordet.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Express du Grand Paris sur Radio Territoria, bien sûr, la seule émission qui fait le point chaque mois sur les travaux monumentaux censés rapprocher la banlieue de la capitale, mais également passer d'un point à un autre de l'Île-de-France sans passer justement par la capitale. 200 km de lignes automatiques, 68 gares en construction, c'est pas rien. Nouvelle alternative à la voiture, le Grand Paris Express réduira la pollution, les embouteillages, contribuera à créer une métropole plus respectueuse de l'environnement, nous dit-on. Plus respectueuse de l'environnement, est-ce vraiment le cas aujourd'hui pendant ces travaux? C'est toute la question. En tout cas, ça grogne dans les campagnes de l'Île-de-France car beaucoup de communes ne veulent pas recevoir, réceptionner, abriter les tonnes de déchets issus des fameux travaux. C'est le cas de Fontenay-en-Parisis, dans le Val-d'Oise, de Thoiry, dans les Yvelines, ou encore de Saint-Hilaire, dans l'Essonne, où les habitants et les défenseurs de l'environnement manifestent ces derniers jours. Nous ne sommes pas la poubelle du Grand Paris, peut-on lire ou entendre lors de ces manifestations. Pour en parler et pour comprendre, Stéphane de Melemester est avec nous, maire de Saint-Hilaire. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement, évidemment, à notre invitation. Marie-Joseph Mazur, de l'Association de défense de la santé et de l'environnement Saint-Escobile. Bonjour. Et puis Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, maire de Mennecy. Vous êtes chargé, je le rappelle, à la région. Vous êtes chargé des questions environnementales, notamment. Et justement, j'ai envie de commencer par vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément, pour une raison très simple. C'est qu'il se trouve que l'actualité est particulièrement chaude sur toute cette question du Grand Paris Express, puisque Jean Castex, le Premier ministre, a entériné visiblement la création d'une gare assez controversée, et je voudrais commencer par ça, une gare assez controversée sur le triangle de Gonesse, ligne 17 du métro du Grand Paris. Vous applaudissez ?
Bonjour. Écoutez, une gare assez controversée, en tout cas pas par l'ensemble des élus et des acteurs économiques du territoire concerné. Contrairement à ce qu'on a à Saint-Hilaire, où il y a un projet qui est un projet scélérat qui veut se faire contre le territoire et contre les communes, la question de l'aménagement du triangle de Gonesse est quelque chose qui a été acté par la région Île-de-France en 2013 dans le cadre de l'établissement de son SDRIF, c'est-à-dire son document d'urbanisme qui fixe les règles d'aménagement, à une époque à laquelle M. Bayou siégeait dans la majorité de M. Huchon, qui a adopté ce SDRIF. Ce triangle de Gonesse.
M. Bayou, je rappelle juste, Jean-Philippe Dugoin-Clément, que M. Bayou est le candidat là, pour les régionales, pour les écologistes.
Voilà. Et l'un des opposants au projet de gare que vous avez cité, comme quoi on peut avoir une certaine forme de schizophrénie ou d'amnésie en politique. Ce projet d'aménagement du triangle de Gonesse, qui a été porté par la gauche au Conseil régional en 2013, soutenu par le président Hollande en son temps, c'est quoi ? C'est tout simplement ramener de l'activité sur le secteur le plus pauvre et le plus enclavé d'Île-de-France. Un secteur qui n'a aucune desserte de transport en commun, un secteur sur les villes de Gonesse, de Garges-lès-Gonesse, de Villiers-le-Bel, où on a les taux de pauvreté les plus importants, une population parmi les plus jeunes d'Île-de-France, des montées de phénomènes de radicalisation, et c'est pour ça qu'en 2013, à juste titre, avait été porté ce projet de triangle Gonesse. Depuis, une partie du projet qui était écologiquement irresponsable, qui était Europa City, a été abandonnée. Reste la question de la préservation des terres agricoles sur lesquelles devait avoir lieu Europa City, mais en même temps, si vous me passez l'expression, du maintien de la seule gare du Grand Paris Express qui dessert le Val-d'Oise, qui dessert ces territoires aujourd'hui qui sont des territoires abandonnés par les pouvoirs publics, et du maintien d'une activité de création d'emplois et d'ouverture de perspectives pour des jeunes qui n'en ont aujourd'hui aucune. Sur
non, mais j'entends bien ce que vous dites.
C'est ce que demandaient tous les élus.
J'entends bien ce que vous dites.
C'est ce que demandaient tous les élus. Le Premier ministre a décidé d'écouter les élus, d'écouter Valérie Pécresse, et je peux que m'en féliciter.
Mais ça va faire aussi moins de terres agricoles, forcément, avec ces travaux. Et avec l'apparition de cette gare.
Aujourd'hui, on est sur des terres qui ne sont pas exploitées. On est sur des terres qui font l'objet d'analyses en termes de pollution, parce qu'on n'a même pas les résultats des analyses en termes de pollution pour une partie d'entre elles. Et on n'a pas de certitude qu'on puisse être sûr de l'agriculture en l'espèce alimentaire dessus. Donc, on est sur des terres qui, depuis maintenant des décennies, une dizaine d'années, sont prévues en aménagement et où nous souhaitons un projet équilibré, c'est-à-dire la sanctuarisation agricole d'une partie des terres avec la recherche d'acteurs pour aller les exploiter, mais également le refus d'abandonner des milliers de personnes aujourd'hui qui vivent dans des situations de relégation effroyables.
Ouais. Allez, on va poursuivre. C'est intéressant d'avoir votre sentiment, évidemment, après la déclaration du Premier ministre ces dernières heures sur ce sujet. Avant de poursuivre, Bérénice Deville, vous êtes avec nous, bonjour. Dites-nous ce que représente le sujet qui nous occupe aujourd'hui dans l'Express du Grand Paris, c'est-à-dire l'extraction des déchets de ces travaux qui sont absolument phénoménaux, je le rappelle.
Oui, phénoménaux, vous le dites, justement, 16 millions de tonnes ont déjà été extraite du sous-sol depuis le début des travaux. Je vous rappelle qu'il y a 124 chantiers en cours. Mais ce n'est pas fini, évidemment. Selon la Société du Grand Paris, il y aura 45 millions de tonnes de déblais en 15 ans. Pour vous donner une idée, parce que ça ne vous parle peut-être pas, là, ça fait 9000 piscines olympiques de 2 mètres de profondeur. Et la grande question est donc où stocker tous ces déchets et comment les stocker aussi. Ouais. Et d'ailleurs, de quoi sont composés ces déchets en fait ? Alors, il y a ce qu'on appelle les déchets inertes, donc qui sont composés de terre, béton, briques, vitrage. Les déchets non dangereux, le bois, le plastique, les métaux.
Plastique, c'est pas dangereux.
Selon eux. Alors,
pour l'environnement, le plastique,
c'est quand même pas terrible.
Mais
alors attendez, parce que dans la catégorie des déchets dangereux, c'est vraiment très dangereux. On a l'amiante, l'huile, les gens passent.
Ouais.
Donc voilà, ils ont préféré mettre le plastique. Donc bon.
D'accord.
Bon, une fois décaissés, ces déchets sont triés, analysés avant d'atteindre leur destination. Alors, il faut savoir que la Société du Grand Paris essaye de réutiliser ces déchets au maximum, mais bon, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, c'est un héritage qui met les gens en colère, vous le disiez tout à l'heure, et ça se comprend. Qui a envie de récupérer les déchets chez soi ? Pour vous donner une idée, donc, vous en avez parlé en Essonne, le 2 mai dernier à Étampes, plus de 300 personnes ont manifesté.
Bah oui, c'est pour ça qu'on est là.
Contre un projet en cours qui prévoit l'apport, qui est en cours d'instruction, donc qui devrait se faire, qui prévoit l'apport de 1,4 million de mètres cubes de déchets inertes, et cela sur une surface de 34 hectares. Donc si vous aimez le foot,
on va
vous
en parler.
C'est 70 terrains.
Ah oui. 70 et terrains de
voilà,
foot.
Et même combat dans les villes dont vous parliez. Donc voilà, il n'y a pas que. Donc il y a les substances toxiques qui pollueraient, il y a la déformation du paysage, mais s'ajoute à ça aussi la crainte des nuisances, puisque tous ces déchets, il faut bien les acheminer.
Il faut des camions.
Exactement.
Voilà, exactement
Et pour certaines villes, on estime à 67 camions par jour qui passeraient pour acheminer ces déchets, justement. Donc Christophe, je ne sais pas, ces déchets, on en fait quoi ? Vous les prenez chez vous
ou... Ah ben, j'ai pas la place. Je suis désolé, j'ai pas la place. Je suis comme beaucoup d'habitants d'Île-de-France, j'ai pas la place. Monsieur le maire, de Saint-Hilaire dans l'Essonne, Stéphane de Meulemeester, racontez-nous, tiens d'abord, faites-nous d'abord rêver avant que cette image soit entachée par cette montagne de déchets, faites-nous rêver, racontez-nous votre commune tout d'abord, combien d'habitants tiens chez vous ?
413, une petite commune rurale du sud Essonne, en fond de vallée, avec quelques petits coteaux agricoles.
Il y a un peu de forêt, il y a un peu de...
On a encaissé un fond de vallée, donc c'est vrai qu'il y a des forêts. On a deux petites rivières qui coulent sur la commune. C'est un super cadre de vie. Si les gens y viennent, y vivent, il y a bien raison. C'est vrai que si nous devions supporter les déchets du Grand Paris, ça serait compliqué.
Bon, alors justement, commune rurale d'Île-de-France, il y a une semaine, on le disait, 300 personnes ont manifesté contre l'implantation d'une ISDI, une installation de stockage de déchets inertes, comme on l'a dit, sur 34 hectares, 70 terrains de football, situé au lieu dit Ardennes, la Saboterie, chez vous à Saint-Hilaire. Ça ne serait pas le lieu idéal quand même pour accueillir ces déchets, monsieur le maire, si c'est un peu un endroit reculé en quelque sorte ?
C'est ça, donc c'est le lieu idéal sûrement pas. Reculé, oui, donc pour l'exploitant et pour la société Bouygues, sûrement. Ça serait caché de tout, donc oui, l'idéal pour eux, mais pas pour nous.
Comment, moi, j'arrive pas à comprendre comment on en arrive là. C'est-à-dire comment on en arrive à ce dialogue de sourds, et surtout si tardivement, parce que les travaux ont commencé maintenant il y a plusieurs années, ils vont se poursuivre, allez, grosso modo, jusqu'en 2030. Comment on en est arrivé là, monsieur le maire ?
Si je pouvais vous répondre, je vous le répondrai.
Ah ben d'accord, bon ben c'est sympa. Non mais vous par exemple, comment vous avez appris les choses ? Comment les choses se sont déroulées avec Bouygues par exemple ?
Alors moi j'ai été sollicité déjà en 2018 par la société Bouygues Travaux Publics. Ils sont venus me voir pour savoir si j'acceptais de revoir une revalorisation et un remodelage de terres agricoles sur donc le Lévis Ardennes à Saboterie. Donc moi, au début, je leur ai dit qu'il n'y a pas de souci, mais on a commencé à me dire qu'il y aurait une excavation et après un rehaussement de 8 mètres de haut. Donc là, je leur ai dit, je ne pense pas que ce soit une revalorisation de terres agricoles, mais plutôt une décharge. Et du coup, ils m'ont dit, non, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas, on gère la chose, bon, après, je vais vous dire les choses, vous le savez. Et après, bon, on a commencé à avoir des échanges et suite à plusieurs entretiens que j'ai eu avec Bouygues, j'aurais posé certaines questions. Et de là, ils ont commencé à me dire que c'était une USDI. De toute façon, ils avaient tout en main, qu'il n'y avait aucun souci et qui géraient le sujet.
Bon, et donc depuis.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est quand même une classe ISDI. Initialement, c'était classé de type décharge de classe 3 au sens du code du urbanisme.
Et ça veut dire quoi au sens. Classe 3 au sens.
Que c'était bien une décharge.
C'était bien une décharge, d'accord. Parce que là, maintenant, on parle quand même visiblement de déchets inertes. Donc de la terre, du béton.
Aucun déchet est inerte. Hein. Aucun déchet est inerte. Hein.
Oui, vous craignez quand même que, quoi qu'il arrive, l'environnement soit impacté, déjà géographiquement et physiquement, et ensuite aussi en termes de pollution, j'imagine. Parce qu'il y a les deux rivières dont vous parlez pas très loin, là.
Il y a l'Alouette et quand même, qui est juste en fond de vallée, là où on prend sa source. Après, il y a tout ce qui est l'environnement, il y a. L'écologie, il y a les sociétés eau de source, les cryciculteurs, tout ça.
Monsieur le maire, je vais me faire l'avocat du diable, mais j'ai envie de vous dire, ces déchets, ces déchets, il faut bien les mettre quelque part.
Mais je pense qu'il aurait peut-être fallu réfléchir en amont. On a suffisamment de zones de friches industrielles pour pouvoir faire un stockage et réfléchir sur la réutilisation des déchets par la suite. Je pense que le Grand Paris, ça a été réfléchi, donc on aurait pu prendre le temps aussi de réfléchir pour voir comment on pouvait revaloriser ces terres dites inertes.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, comment vous réagissez justement à ce qu'on vient d'entendre ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a de l'impréparation d'une part, qu'il y a un manque de dialogue. Et la première question que je voudrais vous poser... honnêtement, quand on écoute Monsieur le maire de Saint-Hilaire, Stéphane de Melemester, on a l'impression quand même que la société du Grand Paris n'a pas fait le job.
Non. En fait, le sujet, il va au-delà de la société du Grand Paris, pour être tout à fait précis par rapport à ce qui a été présenté. Le projet qui est fait, qui est proposé, qui est porté par Bouygues, c'est un projet qui est inacceptable. Qui est inacceptable parce qu'il n'a aucun sens, il n'a aucune justification et aucune cohérence. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que déjà, quand on parle des déchets du Grand Paris, ça ne concerne pas que les déchets de la SGP ou que les terres excavées, puisqu'en l'espèce, on parle de déchets inertes. Pourquoi la terminologie ? Parce que ça oblige des autorisations préalables pour les entreprises comme Bouygues auprès des préfectures. S'il n'y a pas la terminologie déchets, il n'y a pas ces obligations préalables de déclaration et de dossier qui, à la limite, permettent un petit peu de sécuriser. Mais le volume des déchets, c'est l'ensemble des travaux de l'Île-de-France avec la Société du Grand Paris et ses 68 gares qui représentent une part non négligeable, mais c'est l'ensemble des travaux. C'est aussi bien des travaux qui peuvent être effectués sur une construction d'une école ou d'un équipement public à Étampes ou à Vélizy-Villers, qui n'a rien à voir avec la Société du Grand Paris. C'est globalement le traitement des déchets liés à ça, et assez souvent qu'on schématise comme étant ceux de la SGP, mais pas uniquement. Première chose. Deuxième chose, il y a des exploitants privés qui, parce que c'est une filière économique, cherchent soit à prendre ces terres inertes exploitées par d'autres, soit, c'est le cas de Bouygues, sur du in-house au sein d'un groupe, les terres qui ont été enlevées pour faire des fondations, pour faire des souterrains, pour peu importe, à les positionner et à les enterrer quelque part. Et effectivement, c'est bien un sujet qu'il faut traiter. Et ça peut être traité de manière vertueuse. Mais ce qui est inacceptable ici, c'est que c'est quelque chose qui est fait contre la volonté de la commune, où véritablement on est sur la création d'un rapport de force entre une multinationale et un village de 400 habitants, où il y a cette tentative de faire le pot de terre contre le pot de fer, où on vient s'installer sur des terres agricoles qui sont exploitées. Il y a des exemples extrêmement vertueux de réutilisation de ces remblais du Grand Paris, sur des carrières qui ont pu être solidifiées, qui ont pu être réaménagées, sur des terres qui étaient polluées, où ça a été à l'inverse un moyen de récupérer des terres, de les rendre à l'agriculture ultérieurement. Là, ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose qui est fait contre la volonté des habitants, contre la volonté des collectivités, sur des terres agricoles qui n'ont aucune vocation à accueillir de tels déchets. C'est ça qui est absolument irresponsable.
Alors moi, j'ai envie de vous dire, parce que vous dites que c'est irresponsable. Non mais d'accord, mais vous dites que c'est irresponsable, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Très bien, mais alors j'ai envie de vous dire, vous avez le pouvoir, qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire pour inverser la tendance, si je puis dire ?
La réalité aujourd'hui, les entreprises qui ont des terres, des déchets de chantier, des résidus de chantier, des terres d'excavation, ils ont une procédure, c'est-à-dire ils ont besoin d'avoir un terrain qui leur appartienne. La région n'intervient pas, pas plus que le département ou les intercommunalités. Ils ont à trouver des terrains dont ils soient propriétaires, à déposer des dossiers auprès de l'État, des services préfectoraux qui les instruisent et les autorisent ou ne les autorise pas en fonction des garanties qui sont apportées. Donc, si vous voulez, il y a deux choses là-dessus. Il y a un, l'examen qui va être fait par l'État du dossier techniquement, administrativement. Est-ce que c'est un dossier qui est avec des failles, qui permet d'être attaqué ? Ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, et c'est en ce sens que je conçois l'action publique ou l'action politique. Il y a un moment où un groupe comme Bouygues, qui est une multinationale, qui est un grand groupe français, ne peut pas s'asseoir sur des êtres humains, ne peut pas méconnaître les communes, les agglomérations, le département, la région, l'ensemble de ceux qui sont contre. Encore une fois, des projets avec des terres excavées du Grand Paris qui se sont passés merveilleusement bien. Il y en a eu, je pourrais vous parler de carrières à Chelles, je pourrais vous parler de terres polluées à Grésy-Suine, je pourrais vous parler d'Annette-sur-Marne avec des projets de renaturation, de végétalisation et de photovoltaïque qui ont été faits dessus, mais ici, ce n'est pas le cas. On veut passer en force sur des terres qui ne le justifient pas, qui ne l'autorisent pas, qui ne le permettent pas. C'est juste quelque chose de fou. Donc, ouais. On va être, je pense, avec monsieur le maire, avec l'ensemble des élus.
Donc, vous allez soutenir Stéphane de Melmester.
Un rapport de force avec Bouygues, parce que ça ne se fera pas.
Bon, donc vous soutenez Stéphane de Melmester, clairement.
Bien sûr. Il y a un problème qu'il faut traiter intelligemment et en accord avec tout le monde, en tenant compte des réalités locales, qui est celui des terres excavées du Grand Paris, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être fait en s'asseyant sur les gens qui existent, d'autant qu'il y a des territoires, il y a des terrains ou des endroits où il y a des utilités et des besoins.
Ouais. Je vais donner la parole à Marie-Joseph Mazur, qui est avec nous, j'espère qu'on l'entendra, Association de défense de la santé de l'environnement. En quoi cette décharge, pour vous, Marie-Joseph Mazur, est extrêmement dangereuse sur ce territoire de Saint-Hilaire ?
Elle est dangereuse parce qu'elle se trouve justement au-dessus d'une vallée, une vallée qui donne naissance à une rivière, la Louette, et au bord de cette vallée, des cressonnières sont alimentées par des puits artésiens. Les cressonnières, c'est une des activités les plus importantes en Essonne. C'est un des territoires où on trouve du cresson en France, le plus grand territoire où on trouve du cresson. Il y a également dans cette vallée, toute une zone qui est classée protégée, avec une protection de la faune, et c'est irremplaçable. Si on remet des terres au-dessus, fatalement, il y aura une destruction de tout l'ensemble de cette vallée, au niveau de la faune et de la flore.
Bérénice, vous vouliez poser une question peut-être à Marie-Joseph ?
Non, je suis totalement d'accord avec, avec ce qui se dit là. Non, c'était par rapport à, aux actions. Quand monsieur avant disait que ça ne se ferait pas, il l'a juste dit avant, 400 personnes, 400 habitants contre une multinationale. Le pot de fer contre le pot de terre. Alors quand vous vous assurez que ça ne se fera pas, pourtant je suis totalement d'accord avec vous, mais j'ai peur en fait que ça se fasse quand même, parce que qu'est-ce qu'on peut faire en fait contre ça. Et c'est vrai que c'est dramatique parce que pareil, ils ont promis qu'ils analyseraient les terres, etc. Mais est-ce qu'on peut vraiment analyser, parce que les déblais sont, c'est mélangé et on peut pas les trier, on peut pas tout trier, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'il y a un gros problème qui se pose et les problèmes des actions aussi contre ce projet, parce que les projets sont en cours, hein, c'est ça qu'il faut rappeler.
Oui.
Ils sont en cours.
Une petite réaction, effectivement, Jean-Philippe, Dugoin-Clément et puis Stéphane de Melemester juste après. C'est bien beau de dire ça ne se fera pas. Et on va mettre tout notre poids dans la balance, mais enfin au final, est-ce que vous avez vraiment la possibilité réelle de vous faire entendre et d'agir? On voit bien que c'est à d'autres niveaux que ça se joue aussi, quoi.
Si vous me permettez, d'une part sur les questions, d'une manière générale, parce que juste je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame entre un problème général et un cas particulier qui est profondément choquant. Il y a des procédures de suivi, c'est-à-dire que sur les dépôts qui sont faits, il y a des analyses qui sont faites, après ça peut être fraudé, mais c'est un délit pénal dans ce cas-là. Donc il faut juste, de ce point de vue-là, pas être sur une paranoïa complète, parce que sinon, c'est-à-dire que plus rien ne se fait nulle part. Et encore une fois, les dépôts, les excavations du Grand Paris Express, c'est 20% des excavations franciliennes. Donc juste là-dessus. Moi, je pense que ça ne se fera pas parce qu'une entreprise comme Bouygues, est-ce qu'une entreprise comme Bouygues veut être en guerre avec un village de 400 habitants? Ça peut s'entendre. Son agglomération, c'est plus compliqué. Un département comme l'Essonne d'1,2 million habitants, ça complique les choses. Avec la région Île-de-France, ça complique les choses. Et on est dans un cas où, politiquement, le village de Saint-Hilaire n'est pas seul. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais si Bouygues veut passer en force, Bouygues sera en guerre contre la majorité régionale francilienne, contre Valérie Pécresse, contre ce que nous portons. Et vous savez, la vie, elle est extrêmement longue. Et je ne suis pas sûr qu'un groupe comme Bouygues ait envie d'avoir du naming and shaming de manière quotidienne, n'ait pas envie d'avoir des mesures de rétorsion qui soient prises. C'est un choix, mais c'est un rapport de force. C'est un rapport de force, effectivement, qu'un village de 400 habitants ne peut pas porter. C'est un rapport de force qu'on ira porter ensemble. En parallèle, il y a des voies juridiques qui sont portées par la commune. L'agglomération a mandaté ou accompagné pour la prise d'un avocat dessus. Mais moi, je crois énormément au rapport de force politique. Et ce rapport de force, c'est celui d'une région de 12 300 000 habitants face à un groupe. Et vous savez, il y a toujours un moment dans la vie où vous vous retrouvez. Après, c'est des choix. Mais Bouygues peut choisir de rentrer en guerre contre la région, contre Valérie Pécresse, contre le département,
on sent aussi,
contre François Durovray.
On sent aussi dans vos propos qu'on est un peu en campagne, on commence à être en campagne pour les régionales, et que donc peut-être que ça peut jouer en faveur de Monsieur le maire et de cette commune de Saint-Hilaire. Stéphane de Melemester, quand on entend Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous avez un allié de poids, est-ce que vous y croyez ?
Ah oui, sincèrement, je crois. J'ai vu Jean-Philippe dimanche, il nous soutient, la région aussi, le département, les intercos. Donc oui, je ne savais pas que les feux verts sont dans notre sens, mais il faut qu'on y aille, oui. Et après, on aura tous les moyens légaux s'il le faut.
Bon.
C'est peut-être le pot de fer contre pot de terre.
Alors moi j'ai quand même une question à poser, parce que vous ne voulez pas de ces déchets, et évidemment, on le comprend, et on le comprend encore mieux d'ailleurs depuis que Marie-Joseph Mazur nous a expliqué ce qui se passe là-bas au niveau des cultures et de l'environnement. C'est vrai, non mais ça pollue, et c'est vrai que c'est un coin où on cultive du cresson. Le cresson, c'est très bon pour la santé, en salade, en soupe, excellent.
On sent le cresson. Consommateur.
Mais non, mais le cresson d'Île-de-France, l'Île-de-France qui est une région magnifique, agricole, extraordinaire, où on a plein d'excellents produits en plus, donc on n'a pas envie qu'elle soit polluée. Moi, je pose une question toute simple. Finalement, ces déchets, il faut les mettre où ? On peut les mettre où pour que ça ne gêne personne ? Je crois que c'est ça que les gens ont envie de comprendre, Jean-Philippe Dugoin-Clément.
Ben justement, c'est ce que je vous disais, il y a des terrains qui s'y prêtent. On a des secteurs où on a des terrains pollués qu'on a pu justement récupérer, réouvrir à l'agriculture, remodeler grâce à ça, parce que ça a été fait en lien avec les élus locaux, c'était fait de manière vertueuse, parce que quand vous avez des terres qui sont polluées, pour le coup, aller remodeler le territoire, aller construire une butte avec des matières inertes, aller la revégétaliser, c'est quelque chose de vertueux. On a des secteurs, à Chel, par exemple, où j'ai un déplacement cette semaine, il y a des carrières, des anciennes carrières qui menaçaient de s'effondrer. On est sur des gruyères. Ça peut être aussi un moyen de venir remblayer des terrains de ce type. On a des dizaines de terrains en Île-de-France où on a besoin d'avoir des terres inertes, c'est-à-dire des pierres, de la rocaille, des bétons, de manière à pouvoir justement réutiliser ces terrains. Là, ici, ce qui est choquant, c'est que ce n'est pas le cas, encore une fois.
Et en même temps, on ne va pas les mettre à Mennecy non plus, hein, j'imagine. Vous ne voudriez pas de ces déchets, vous, à Mennecy?
Si vous voulez...
Non, mais je dis ça pour vous embêter.
Aujourd'hui, hein. Je n'ai pas de foncier disponible dessus, et je n'ai pas la problématique ou la potentialité d'accueil. Mais ouais. Effectivement, il y a des communes ou pour des raisons, parce que vous avez... Moi, je vous prends l'exemple de Grésy-Suisne. Quand vous avez des hectares de terre qui ont été pollués avec des métaux lourds qui sont inutilisables, ce qui est fait à Grésy-Suisne, c'est une potentialité, justement, de recréer de la culture dessus. Quand vous êtes à Chel avec des carrières qui menacent de s'effondrer, c'est un moyen de solidifier des terrains, de pouvoir les rendre utilisables. La réalité d'une commune n'est pas celle d'une autre.
Marie-Joseph Mazure, est-ce que la mobilisation va se poursuivre et comment vous l'organisez, qu'est-ce que vous espérez mettre en œuvre?
Si le dossier persiste, nous allons continuer, et continuer en particulier dans le cadre de l'enquête publique ou de la consultation publique. Nous allons alerter les habitants pour qu'ils viennent donner leur avis et que nous soyons très nombreux. Et évidemment, les élus seront là aussi. Nous travaillons, notre association travaille toujours avec les élus.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les habitants, tiens, avec qui vous avez déjà manifesté il y a quelques jours, là?
Ils sont d'accord avec nous. Ils sont outrés par le fait qu'on vienne prendre des terres agricoles. Les agriculteurs, d'ailleurs, ont manifesté dans leur ensemble. Les terres agricoles sont faites pour produire notre nourriture et pas pour mettre des déchets.
Vous croyez que les élections...
Également, bon, il y a aussi le problème des inondations. Dans le village de Saint-Hilaire, il y a déjà eu des inondations à la suite de pluies importantes. Surélever la terre ne fera que produire encore davantage de risques d'inondation et de glissement de terrain.
Est-ce que vous croyez que cette période d'élection régionale peut vous être favorable dans votre lutte?
Bien sûr, dans la mesure où tous les élus sont là pour dire non à ce projet.
Et ils sont tous là?
Tous les candidats.
Et ils sont tous là, donc, pour vous?
Ils sont tous là.
Bon, ben, très bien. Allez, dernier mot avec Monsieur le maire, Stéphane de Melemester. Pareil, la poursuite de la mobilisation est absolument indispensable pour arriver à vos fins, à votre avis?
Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est en se faisant entendre qu'on avance. Si on ferme les yeux, non. Il faut y aller, il faut avancer. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud.
Vous avez bon espoir?
Ah oui, je suis optimiste, c'est comme disait Jean-Philippe, hein, le secteur n'est pas approprié, il y a d'autres secteurs en Ile-de-France qui sûrement pourraient accepter ces terres-là, donc autant aller au bon endroit, plutôt que venir courir des zones nourricières.
Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on va suivre ce dossier de près, évidemment, dans l'Express du Grand Paris. Et on vous tiendra au courant sur Radio Territoria. Merci donc à Stéphane de Melemester, maire de Saint-Hilaire. Merci à Marie-Joseph Mazure et à Jean-Philippe Dugoin, Clément, que l'on retrouvera bientôt. Bientôt, l'Association des maires d'Île-de-France qui va tenir son grand congrès. Et vous pourrez le vivre, évidemment, sur Radio Territoria. Parole aux maires, c'est ici, c'est nulle part ailleurs. Et évidemment, vous pouvez retrouver ce podcast sur Radio Territoria. À très bientôt.
L'Express du Grand Paris, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.